La semaine prochaine, 90 athlètes canadiens, des militaires blessés au combat ou à l'entraînement, participeront aux Jeux Invictus à Toronto. Comment ce grand rassemblement sportif aide à leur guérison physique et psychologique? On le découvre dans un instant au Signal. Aujourd'hui, le vendredi 15 septembre, cela fait longtemps que cette date était encerclée à mon calendrier. C'est la première diffusion de l'émission au Signal. Hein, c'est un rêve d'enfance pour moi que d'animer une émission de sport et je serai heureux d'être avec vous pendant toute l'année. Donc, tous les vendredis, j'aurai le plaisir d'accueillir des invités pour faire la lumière sur un aspect en particulier du monde du parasport. On commence aujourd'hui en force sur une émission consacrée aux anciens combattants des Forces armées canadiennes qui vont prendre part à un grand événement à Toronto, les Jeux Invictus. Ça se déroule la semaine prochaine, une compétition multisport qui réunit 550 concurrents de 17 nations différentes et on a le plaisir de recevoir l'un d'entre eux aujourd'hui, Nicolas Meunier. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer en vos mots, en fait, qu'est-ce que ça représente à vos yeux, les Jeux Invictus?
Oh my God, c'est une grosse question. les Jeux Invictus, c'est une très belle initiative du Prince Harry de rassembler plusieurs vétérans blessés autour du monde sur une même plateforme pour qu'on puisse compétitionner amicalement. Et bon, c'est sûr, on va essayer de gagner, c'est sûr. Mais c'est pour se réunir ensemble puis juste normaliser peut-être nos blessures et faire peut-être un changement culturel autour de ça.
Donc, c'est pour des soldats qui ont été blessés soit à l'entraînement ou au combat. Vous, est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours militaire puis qu'est-ce qui vous a amené à prendre part aux Jeux Invictus? C'est pas votre première participation, là. Vous étiez à Orlando l'année dernière.
Oui, exactement. J'ai joint le militaire, j'avais même pas 17 ans. Faut avoir 17 ans la première année d'entraînement. J'ai joint la réserve au 6e-22 à Sainte-Hyacinthe sur la rive sud de Montréal. Et première chose que je sais, déploiement rapidement, transfert dans la régulière, 22e régiment à Québec. Et après ça, je me suis promené beaucoup en tant que tel. J'ai fait pas mal de choses un petit peu plus intenses. Pis...
Vous avez été déployé dans plusieurs pays temps de guerre.
Oui, exactement. On parle de la Yougoslavie, la Bosnie, la Croatie, l'Haïti. Je me suis renseigné en Europe de l'Est. Mm-hmm. J'ai fait aussi du peacekeeping, l'aide humanitaire aussi, en Haïti, en Amérique du Sud. Je me suis promené beaucoup en tant que tel. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de changer ma carrière. Au lieu d'aller voir justement des zones de guerre, des zones plus traumatisantes, j'ai dit, je vais aller en sauvetage. Que dans le militaire, on a vraiment une petite section, d'environ 100 techniciens qui font tous les sauvetages au Canada que justement la police, les pompiers ne peuvent pas faire.
Quand on pense à des grands sinistres, par exemple, là, où est-ce qu'on doit faire appel aux forces armées pour intervenir?
Ça peut être des grands sinistres, mais en général, on fait plus les cas justement d'urgence isolés. On va dire un écrasement d'avion dans le nord canadien, un bateau qui coule dans l'Atlantique, une personne qui fait des deltaplanes, il y en a plusieurs dans les Rocheuses qui s'écrasent.
Ouais.
C'est nous qui arrivons avec l'équipement spécialisé pour aller les chercher. Mm-hmm. Malheureusement, il fait jamais gros soleil quand on va là. c'est tout le temps les pires températures. Donc, on pousse tout le temps une limite que j'ai subi plusieurs blessures au cours de ce parcours-là à la fin, qui m'a pris environ une douzaine d'années en tant que chef d'équipe de sauvetage pour le Canadien.
Est-ce que vous pouvez me parler de votre participation aux Jeux d'Orlando? Vous avez remporté une médaille d'argent à ce moment-là au tir à l'arc. C'est votre sport, le tir à l'arc. Pourquoi cette discipline en particulier? Je sais que vous êtes un grand sportif, là.
Oui. Orlando, j'ai reçu l'invitation. J'ai eu peut-être 4 mois pour m'entraîner. Puis une des aspects, des qualités que j'avais dans l'armée, c'était que j'étais un tireur d'élite un peu. Donc, j'ai transféré ça vers le tir à l'arc. Et quand j'ai commencé à tirer, je me suis démarqué complètement. Quand en moins de 4 mois, je me suis lancé à Orlando, j'ai gagné 2 médailles d'argent là-bas en tir à l'arc. Et donc, le Britannique qui m'a volé par 1 cm sur la dernière flèche. Donc, on a une date cette année.
C'est ça, là, ça va être la prise 2, le round 2 la semaine prochaine à Toronto.
Exactement. On va avoir un rendez-vous ensemble. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui sont intégrés pendant ce temps-là. On a 7 paralympiens qui vont être présents. Qui viennent d'Italie, qui viennent de Roumanie, qui viennent de plein de pays en tant que tel pour essayer de me voler la médaille.
Comprend que le niveau de compétition est vraiment élevé. Là, c'est des paralympiens qui vont se mesurer à vous à Toronto.
Exactement. Non, c'est parce que les militaires blessés, on s'intègre, justement, on a tout le temps adoré le sport. C'est la meilleure thérapie qu'on peut pas faire. Donc, il y en a plusieurs qui performent extrêmement bien. Spécialement l'an passé, je faisais la natation. La personne qui nageait à côté de moi en finale du 50 mètres, c'était le coéquipier de Michael Phelps.
Wow!
Là, fait, what?
C'est un petit peu intimidant.
C'est très intimidant. Donc, le niveau peut être très élevé à certains niveaux.
Mais ça reste assez amical, j'ai l'impression. Même si vous êtes compétitif de nature, j'ai l'impression, dans le militaire, je pense qu'il y a un esprit de camaraderie fort qui règne dans ces jeux-là.
Oui, exactement. On ne compétitionne pas contre l'autre, on compétitionne avec l'autre. Hein. Uh-huh. On essaie de rester pas mal cool autour de ça, mais c'est ça, la réalité monte un petit peu et ça fait mettre un sourire dans le visage plus que d'autres choses.
Est-ce que vous pouvez me parler, quand vous pratiquez le tir à l'arc, on a parlé un petit peu tout à l'heure de vos blessures subies lors de votre parcours militaire. Est-ce que vous pratiquez maintenant le tir à l'arc d'une manière en particulier pour pouvoir arriver à vos fins?
Alors, il a fallu que je m'adapte en tant que tel. Vu mes blessures, ils ont dégénéré un petit peu de plus en plus. Je m'en viens un petit peu plus vieux avec le temps. Uh-huh. Donc, j'ai commencé à tirer assis.
Okay.
Mais j'ai eu beaucoup de support aussi dans la région de Montréal, surtout. J'ai eu un super bon coach, justement, qui était troisième en Europe français, Daniel Delaby. J'ai eu certains champions, pas champions, mais partie de l'équipe olympique de tir à l'arc qui sont venus m'aider. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour avoir ma technique, bien que l'an passé, quand je suis revenu à Orlando, j'ai continué, j'ai gagné une médaille d'or au championnat canadien, médaille d'or au championnat québécois. Puis j'ai décidé de continuer. Malgré les blessures, je continue. C'est un sport que le monde pense que c'est pas très physique, mais si on tire 42 livres à bout de doigts tous les jours, ça considère quelques tonnes à tous les jours.
Et vous, vos blessures sont surtout au niveau du bas du corps, pour reprendre le jargon qu'on entend souvent au hockey, là?
Oui, ben les plus grosses blessures sont au bas du corps, c'est sûr. J'ai 3 disques fusionnés, j'ai l'épaule reconstruite, la main reconstruite, puis quelques autres blessures en tant que telles dans le haut du corps, mais je vis avec relativement pas pire, je pense.
Ben, visiblement, oui. Puis, bien, dans le fond, donc, on a compris que l'adaptation pour le tir à l'arc, c'est que certains athlètes compétitionnent en étant assis, mais il y a beaucoup d'autres compétitions de sport adapté qui vont avoir lieu au jeu Invictus. Il y a comme, par exemple, du rugby en fauteuil roulant qui va être à l'honneur lors de cette fin de semaine.
Ben oui, je compétitionne, je fais partie de l'équipe de rugby en Gironde. Merci d'en parler. Je pense qu'on a une équipe fantastique. Au début, je sais pas, parce que avec mes jambes que j'ai en ce moment, c'est comme un isosquelette que je peux me déplacer, mais en chaise roulante, j'ai découvert une nouvelle communauté en tant que telle.
Vous avez découvert, j'imagine, aussi une nouvelle mobilité. C'est une nouvelle manière pour vous de vous déplacer en étant en fauteuil roulant.
Exactement. Oui, c'était comme nouveau. J'avais comme peur justement d'assister une chaise roulante parce que le médecin dit quand tu t'assises dedans, tu ne sortiras plus de ta chaise roulante.
Ouais.
Mais là, en faisant du sport comme ça, ça m'a permis d'apprécier un petit peu la confrérie qui est autour des chaises roulantes aussi. On veut pas se faire prendre en pitié, on se rentre dedans comme ça serait des voitures de course. C'est vraiment fantastique, c'est vraiment excitant.
Super, vous avez parlé tantôt, Nicolas, également du soutien que vous avez reçu, notamment un soutien de Soldier On, Soldats sans limite, qui est un organisme qui vient en aide aux soldats blessés. On s'en va rejoindre dans un instant, au bout du fil, le responsable de ce programme, Greg Lagacé, au Signal. Au bout du fil d'Ottawa, Greg Lagacé, il est responsable du programme Soldier On Sport Sans Limite. Il va aussi agir en quelque sorte à titre de chef de mission pour l'équipe canadienne qui va se rendre aux Jeux Invictus de Toronto. Bonjour, Monsieur Lagacé.
Bonjour.
Êtes-vous tout d'abord fébrile là, à quelques jours du départ vers cette grande compétition?
Ah ouais, on est vraiment excités. Là. C'est tant qu'on dit souvent là, quand tu viens, tu t'approches pour partir, là, on dit on aimerait s'embarquer sur le train, là, puis arriver, puis vraiment commencer les Jeux.
Là, vous allez quitter quand pour... vous êtes à Ottawa. Il y a des gens d'un peu partout au Canada qui vont se rendre à Toronto. Vous allez vous réunir à partir de quel moment, toute l'équipe canadienne?
Il y en a des gens qui arrivent le 18, ceux de l'Ouest, puis le reste de l'équipe qui arrive le 19. On se rejoint ici à Ottawa pour un cas de staging. C'est pour vraiment donner l'équipement, le vêtement, puis s'assurer que tous les athlètes sont bien préparés. Puis on part pour Toronto à 8 heures le matin, le 21.
Vous connaissez bien en studio avec nous Nicolas Meunier qui va participer aux Jeux Invictus en rugby et en tir à l'arc. Quel athlète qu'on devrait surveiller lors de ces compétitions, peut-être en termes d'espoir de médaille pour l'équipe canadienne?
Mais on a une forte équipe, c'est sûr. Nicolas, il y a 89 coéquipiers. Puis là-dedans, par sport, on a tellement de bonnes athlètes. On a des athlètes qui ont atteint des niveaux vraiment hauts, comme Steve Daniel, qui a participé aux Jeux paralympiques. Ça, c'est une personne qu'on croit qu'il y a des bonnes chances. Mais honnêtement, pour nous autres, oui, les médailles, c'est une compétition. Fin de la journée, ils donnent des médailles, mais c'est vrai pour s'assurer que les gens y ont une opportunité pour participer à un événement comme tel. C'est rare que des gens y ont la possibilité pour représenter leur pays encore une fois, mais surtout quand on joue au Canada. Mais je dirais que tous les coéquipiers de Nick ont des bonnes chances, puis on espère qu'ils vont tous atteindre leurs objectifs.
Parce que la progression en termes de médailles du Canada là, est vraiment flamboyante. On a passé de 2 médailles à 22 médailles l'année dernière à Orlando. Là. C'est plus que le triple. Ben, c'est beaucoup plus que le triple, je devrais dire même. Est-ce que vous avez un objectif en termes de nombre de médailles pour les Jeux à Toronto alors que vous allez être chez vous au Canada?
Honnêtement, non. C'est parce qu'on veut pas mettre la pression sur les athlètes. Nous autres, notre focus, c'est vraiment d'assurer qu'on leur donne un programme d'entraînement classe mondiale avec des bons coachs, puis leur supporter avec un bon équipe médicale pour s'assurer qu'eux autres, sur la journée, leurs conditions, ils ont leur meilleure chance à gagner une médaille.
Je naviguais sur le site des Jeux Invictus tout à l'heure, puis je vous pose la question aux deux, et à Greg Lagacé et à Nicolas Meunier. Mais en fait, on demande l'objectif de ces Jeux-là, c'est de passer de l'empathie à la réhabilitation. En fait, c'est de faire en sorte qu'on ne porte pas un regard seulement d'empathie sur les soldats blessés, mais qu'on les voit pour ce qu'ils peuvent encore accomplir. Ça, est-ce que ça vient toucher des cordes chez vous?
Ben, absolument, puis c'est ça le mandat du programme Sans Limites. C'est vraiment d'aider ces militaires actifs puis les vétérans comme Nicolas, puis leur fournir des services puis des programmes à surmonter leurs blessures, que ça soit physique ou santé mentale, pour qu'ils puissent surmonter leur défi et vivre une vie sans limite. Ça fait qu'absolument, là, ça s'accorde vraiment avec qu'est-ce qu'on essaie de faire jour quotidien ici au programme Sans Limite.
Vous abordez dans le même sens, Nicolas?
Oui, exactement. Je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de s'impliquer de plus en plus. On voit le changement culturel qui commence à se construire pour donner des ressources, des facilités, puis aider justement les vétérans. On a beaucoup d'expérience, on a beaucoup de choses à chérir, à partager avec le public ou avec le monde entier. Donc, ces occasions-là, c'est une belle manière de nous réintégrer tranquillement dans un nouveau groupe qui est bâti de civils ou d'équipes de sport, de citoyens justement, qui sont enflammés aussi. Mm-hmm. Parce qu'on sort d'une culture militaire qui était très, très serrée, mais très très accaparante aussi d'une certaine manière, que quand on sort de ce milieu-là, on cherche quelque chose d'autre. Donc, des organisations comme justement Southern et Sans Limites, c'est fantastique. Ils nous donnent des activités tranquillement, ils nous donnent un milieu confortable pour évoluer autour de ça, pour vous dire, OK, je suis capable d'en faire un petit peu plus, jusqu'à temps qu'on se ramasse à un niveau international et développer nos propres manières de conquérir le monde en tant que tel.
Ce programme-là, Greg, vous avez aidé plus de 2000 athlètes ou 2000 anciens combattants depuis sa création. Est-ce que vous pouvez me parler, c'est quoi votre mode d'opération pour venir en aide à ces soldats?
Oui, je suis assez content de dire que le chiffre il est maintenant rendu à plus que 3000.
Wow, vous allez devoir mettre à jour le site web.
Il change quasiment toute la journée. Ça grandit grâce à la sensibilisation. Nos opérations sont assez simples. Puis on aime ça, on n'a pas changé notre processus du début. Premièrement, c'est de faire de la sensibilisation, comme on fait aujourd'hui. T'sais, on espère qu'il y a des soldats qui écoutent l'émission. Puis la minute après ça, on les envoie à une place où ils peuvent accueillir plus d'informations sur notre programme, nos services qu'on offre. Puis on comme Nicolas vient juste de dire, c'est tranquillement, là, pas vite. Là. C'est vraiment ça qui est important. Nous autres, on fournit, on coordonne environ 50 événements à travers le Canada par année. Ça, c'est la pêche, ski de fond, golf, c'est n'importe quelle activité. C'est vraiment le but, là, c'est de sortir les soldats blessés de leur maison. La plupart d'eux, après leur blessure, là, ils s'isolent. C'est ça qui est important, c'est de leur sortir de la maison puis de leur pour qu'ils affrontent des pairs. Qui confrontent des défis similaires. Puis c'est là qu'on vraiment on voit le bien-être du programme. C'est quand ils racontent un autre père. Puis là, ils réalisent qu'ils sont pas seuls. Ils réalisent qu'ils sont pas vraiment aussi différents que ça. Il y a d'autres pareils. Puis c'est là que tu vois vraiment que le rétablissement commence. Puis après ça, on leur demande c'est quoi que tu veux faire dans la vie? Nicolas, il a choisi de tirer à l'arc. Il y a un autre qui va choisir la pêche. Tu sais, c'est vraiment, l'activité comme telle n'est pas aussi importante qu'on leur offre des services et des programmes pour qu'ils peuvent vivre une vie active sans limite.
Puis je pense que c'est même à la base même de la fondation de l'existence des Jeux Invictus et de l'existence du programme Soldier On, Soldats sans limite. C'est vraiment la valeur thérapeutique du sport qui vient en aide à ces personnes, tant sur le plan physique et psychologique. J'ai envie de vous demander, Nicolas, vous, depuis que vous pratiquez le sport de manière un peu plus organisée et régulière, est-ce que vous voyez un effet positif sur votre santé physique?
Bien sûr. Je pense que le sport, c'est la meilleure thérapie qui existe, parce que on peut se bourrer de pilules en tant que tel, mais c'est pas ça qui va balancer toute la chimie qu'on a dans notre tête, toutes les, justement, les hormones, tout ce qui va. Le sport fait régulariser tout ça en tant que tel. Donc, ces organisations qui commencent à faire le jour, qui sont en train d'exploser comme sans limite en tant que tel, il faut valoriser ça, il faut supporter ça. Et tranquillement, justement, la communauté commence à réaliser ça et dire, au lieu de donner à une autre organisation, ils vont commencer à dire « Hey, j'en ai des vétérans proches de chez moi. Mon père était militaire dans telle guerre ou connaissait un oncle ou quelqu'un. Mm-hmm. » Le monde commence à supporter cette organisation-là et il faut les supporter parce que c'est en pleine expansion et le besoin est immense. On parle de 3000 membres en ce moment, mais on est des centaines de milliers de vétérans au Canada qui sont encore en vie et les statistiques prouvent comme quoi qu'on a un besoin de ces organisations-là. Donc, il faut les supporter, il faut leur donner plus, peut-être, plus de manœuvres pour pouvoir opérer, avoir un plus grand nombre de personnel, justement, pour supporter des activités comme qu'on fait. En ce moment, Greg, il fait des miracles avec quasiment pas grand-chose. C'est incroyable. On regarde l'organisation d'Invictus Toronto, le budget est incroyable et fantastique. Et c'est un bon marketing pour tout le monde de prendre conscience de ça. Mais la journée, ça finit. Faut pas arrêter, il faut se retourner et dire « OK, au lieu de supporter Invictus qui était super cool, qui est un très bel événement... »
C'est un travail à long terme.
Exactement, il faut servir vers des gens sans limite et dire ben, « On va supporter eux, on va aller faire du volontariat avec eux, on va donner des donations, on va donner du temps, on va donner des ressources à ce monde-là pour pouvoir aider plus de militaires possible. »
Et juste pour prouver la valeur vraiment du sport, vous êtes l'exemple parfait. Vous pouvez me parler sur le plan de la psychothérapie, mais aussi du plan physique. Concrètement, comment le sport vous aide? Est-ce que sur votre équilibre, ça vous aide dans votre quotidien? Est-ce que vous sentez que vous êtes plus en forme en pratiquant du sport?
Oui, complètement. Il faut, quand le corps va bien, la tête va de mieux en mieux, ça c'est sûr, à 100%. Mais c'est ce petit but-là, justement, de faire une petite compétition ou faire un petit sport ou aller voir nos coéquipiers, juste nous faire sortir du lit le matin, oui, en très grosse douleur. Absolument, je roule par terre, je m'étire, j'ai mal, je prends 2-3 pilules de médication, puis je me lève, mais j'ai un but pour sortir et dire, OK, je vais aller voir mes coéquipiers aujourd'hui, je vais aller tirer avec eux, je vais aller faire de la chaise roulante, je vais aller golfer avec eux. Et ça fait un état d'esprit tellement bien que le corps absorbe aussi cette énergie-là, la tête absorbe ça.
Ça change le mal de place.
Ah, ça a fait disparaître le mal, d'une certaine manière.
Mais ça dépend, parce que quand je vous imaginais tirer de l'arc, je sais pas avec combien de kilos de pression, je me dis ça doit faire un peu mal, mais ça change le mal de place dans ce sens-là. Je comprends ce que vous voulez dire. Puis, ben, j'ai l'impression que c'est ancré profondément dans l'ADN des militaires, cette espèce d'esprit de camaraderie-là, de fraternité, parce que on comprend que pendant tout votre parcours militaire, vous êtes habitué de travailler vraiment tissé serré avec vos frères d'armes, vos sœurs d'armes, et là, du jour au lendemain, vous avez plus cet esprit de groupe-là. Le fait de compétitionner au rugby, vous, ça vous redonne un peu cet esprit-là d'esprit d'équipe, en fait, là, qui vous manque.
Oui, exactement. Je pense que le rugby, c'est vraiment ma plus belle révélation de l'année en tant que tel. J'ai commencé tranquillement, comme quand on parlait avec Greg, puis les autres le savent, le tir à l'arc, oui. C'est un sport très individuel. Ça se rapporte aux qualités que j'avais dans le militaire de tireur. Là, je me ramasse en rugby, dans une chaise volante avec une gang que avant j'aurais jamais approché, j'aurais pas parlé à ce monde-là en tant que tel. À ce stade, je fais partie du groupe en tant que tel. Ce bond vers l'avant-là est pour moi, c'est incroyable parce que l'an passé, avant les Jeux, je m'avais isolé dans le bois pendant des mois de temps. Je voulais pas voir personne. C'était extrêmement difficile. Et en ce moment, je fais partie d'une équipe. Comme justement la confrérie, comme le sentiment d'appartenance qu'on avait dans le militaire, je sais qu'ils vont avoir mes 6 heures s'il arrive quelque chose. Ça fait du bien. Ça relaxe tellement plus de toute la pression sociale qu'on avait en sortant, dire on n'a personne qui nous supporte. Là, on a une équipe qui nous supporte.
Puis, ben, j'imagine, Greg, que vous pouvez confirmer que c'est également les mêmes effets psychologiques qui sont observables. J'ai des 90 athlètes qui vont participer au jeu et même bien plus au rang de la délégation canadienne.
Ben, absolument. Nicolas, il l'a bien dit. Je peux pas le dire mieux qu'il l'a dit. Là. C'est un exemple concret de l'impact du programme Sans Limites. C'est vraiment dur à décrire. Je dis souvent aux gens, là, vraiment, faut que tu le vis vous-même. Là. Faut que tu vois le changement. Là. Puis c'est incroyable de voir des gens qui arrivent, qui ont de la misère à te regarder dans les yeux quand ils vous parlent. Ils parlent pas à leurs coéquipiers. Ils s'isolent. Ils assis sur le divan, tout ça, ils disent rien. Puis dans même pas une semaine, c'est une personne complètement différente. Quelqu'un qui rit, qui fait des jokes, quand il te parle, il regarde dans les yeux, tu sais, il te serre la main. C'est vraiment incroyable de voir le changement des gens. Puis ça se fait devant, là. Toi, tu le vois, le changement. Puis c'est inspirant pour nous autres. Puis c'est honnêtement, c'est motivant pour nous autres pour continuer à aider des pères de Nicolas.
Ça permet de regagner confiance, de revaloriser ses compétences, de reprendre confiance en ses compétences physiques, en fait. Le sport, je pense que ça fait bien référence au titre de votre organisme, Soldier On, Soldat Sans Limite. Greg Lagacé, qui est responsable de ce programme, qui, avec Nicolas Meunier, se rend à Toronto la semaine prochaine. On vous souhaite des médailles, beaucoup de plaisir, puis on souhaite également une longue vie à votre programme, Greg Lagacé. Merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci.
Bonne journée. Merci. Puis Nicolas, ben, je te souhaite une médaille d'or de vaincre ton rival britannique, puis d'avoir beaucoup de plaisir également en rugby.
Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite longue vie à votre épisode. Je sais que c'est la première et on a cassé la glace fermement.
Avec beaucoup de brio, oui. Puis peut-être qu'un jour, on va vous voir aux Jeux paralympiques. Ce serait super.
C'est une éventualité. 2020 s'en vient très rapidement, c'est sûr.
On vous le souhaite. Merci beaucoup. Ben, c'est ce qui conclut presque l'émission. Moi, je reviens là, dans une petite minute avec les nouvelles de la journée. Malgré une défaite de 54-43 en finale du championnat des Amériques, l'équipe canadienne de rugby en fauteuil roulant ne quittera pas le Paraguay les mains vides. En effet, les Canadiens ont obtenu leur qualification pour le championnat du monde 2018 à l'issue de l'ultime match disputé samedi. En finale pour le bronze, le Brésil a eu raison de la Colombie 48-42, c'est ce qui nous apprend le site Sportcom. L'entraîneur-chef Patrick Côté a commenté « L'équipe est sortie très forte de cet affrontement. Il y a eu une grosse amélioration sur l'exécution par rapport au match préliminaire disputé 2 jours plus tôt. Nous avons prouvé que nous pouvons jouer contre la meilleure équipe au monde, et ce malgré le fait que 50% de la formation n'était pas aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. Il reste beaucoup de travail à accomplir pour nous, mais c'est mission accomplie. Nous nous sommes qualifiés pour le championnat du monde à Sydney l'été prochain. » « Maintenant, une nouvelle de hockey. Le nom des 20 joueurs formant l'équipe canadienne de hockey luge dévoilé. À la suite du camp de sélection de septembre de l'équipe nationale sur luge du Canada, Hockey Canada a choisi 20 joueurs pour porter le rouge et le blanc au cours de la saison 2017-2018. L'organisation choisira l'équipe définitive pour les Jeux paralympiques d'hiver à partir de ces 20 noms. La formation comprend 17 joueurs qui ont remporté l'or au championnat mondial de para-hockey en Corée du Sud. C'est le même site qui va accueillir le para-hockey lors des prochains Jeux paralympiques. Dans la formation, il y a Dominique Larocque, un Québécois, qui partagera les filets avec l'Ontarien Corbin Watson. Seul un autre Québécois a réussi à se tailler une place au sein de l'équipe. Il s'agit du défenseur Antoine Lahoux de Thetford Mines. Et en terminant, une dernière nouvelle, les coureurs en fauteuil roulant canadiens ont terminé deuxième et troisième dans une course en Angleterre, c'était samedi dernier. Brent Lakatos de Dorval au Québec a poursuivi sa saison de rêve en fin de semaine avec une médaille d'argent dans le demi-marathon en fauteuil roulant dans la Great North Run. Simon Larson d'Angleterre a gagné la médaille d'or avec 44 minutes 22 secondes, suivi par Lakatos et John Cassidy de Guelph en Ontario qui termine troisième. On rappelle que Lakatos a remporté 4 médailles d'or en juillet dernier au championnat du monde de parathlétisme à Londres. C'est déjà tout pour la première émission d'Au Signal. La semaine prochaine, manquez pas ça, on va s'entretenir avec un professeur de la commission scolaire de Montréal et un jeune élève qui a une amputation. On va discuter ensemble de comment il est possible de concilier le handicap et le sport dans les gymnases d'école primaire et secondaire. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à Mathieu à la mise en onde et à bientôt.